voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. En raison de la pandémie de coronavirus, vous le savez, notre émission se transforme pour mieux répondre à vos besoins. On est maintenant plus de 3 milliards de voisins obligés de rester à la maison. 87% des élèves et des étudiants dans le monde sont désormais privés de leur enseignement habituel. Alors certes, c'est vrai, Internet a pris le relais, mais pas partout. Et pour les plus jeunes, forcément, vous vous demandez comment vos enfants vont continuer à apprendre. C'est pourquoi nous avons réuni chez 7 milliards de voisins des enseignants d'école primaire qui vont vous proposer chaque jour des activités, des exercices avec et pour vos enfants en école primaire. Alors s'ils ne sont pas à côté de vous, allez les chercher là, les petits frères, les grandes sœurs, les petites sœurs, les enfants, allez les chercher. Asseyez-les près de vous. Et puis, selon les jours, eh bien on aura du langage, du calcul ou encore comprendre le monde qui nous entoure. Les enseignants qui n'ont jamais donné de cours à la radio, hein, je voudrais bien vous le préciser, peut-être pour réclamer aussi votre indulgence, ils vous donneront aussi des idées pour prolonger les activités avec les enfants. Et puis ensuite, il y aura une petite récréation quand même, avec une histoire racontée à vos enfants. Et enfin, nos chroniqueurs vont se relayer pour des conseils pratiques. Aujourd'hui, ce sera 10 conseils pour faire travailler efficacement vos enfants, c'est-à-dire avec un planning. Je voudrais aussi vous dire que cette émission est réalisée en direct chaque jour, mais avec une équipe en confinement et en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Hugo Violas et moi-même. Et puis aussi, bien sûr, les voisins et les voisines, on attend vos réactions, on attend vos questions. En ce premier jour d'émission, vraiment, on se lance sans vraiment savoir si nous sommes sur la bonne piste. Alors s'il vous plaît, envoyez vos commentaires, envoyez vos idées, vos suggestions. On fera bien sûr tout notre possible pour répondre à vos attentes, dans la limite de nos moyens techniques évidemment. Et surtout, vous nous appelez pour laisser des messages écrits et audio uniquement sur WhatsApp. Je vous rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71 uniquement sur WhatsApp. Et vraiment, donnez-nous de vos nouvelles. Dites-nous comment vos enfants continuent à apprendre. Dites-nous aussi, dites à vos enfants, pourquoi pas, de nous envoyer des messages audio, des questions sur WhatsApp.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Et tout de suite, le message d'une maman au Burkina Faso où toutes les écoles sont fermées depuis le 16 mars. Elle est à Zignaré, à une centaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou.
Bonjour les voisins et les voisines. Moi, c'est Chimène. Je vis en couple et j'ai une fille de 7 ans. Suite à l'annonce de notre gouvernement le 14 mars 2020, il décidait de la fermeture des écoles préscolaires, primaires, secondaires et supérieures au Burkina Faso. Mais cette mesure qui vise à réduire les infections liées au COVID-19 n'est pas sans conséquences et pour le milieu scolaire, à savoir que les élèves vont rester à la maison pendant un certain temps et ils ne pourront pas suivre les cours comme il se doit. Et moi, à mon niveau, j'ai essayé d'encadrer ma fille. Bon, j'essaie de faire du mieux que je peux avec des exercices de maison comme les calculs, l'écriture, mais aussi la lecture. Mais mon inquiétude est que si la mesure se poursuit jusqu'à plus d'un mois ou au-delà, les élèves qui vont rester à la maison, est-ce que l'État pourra et sauver l'année scolaire? Et quelles sont les mesures qu'ils vont prendre après que le virus soit parti? Je ne sais pas. En attendant, j'essaie d'encadrer ma fille, mais j'essaie aussi d'inviter les autres parents d'élèves à motiver leurs enfants à réviser à la maison, tout en attendant d'autres nouvelles du gouvernement. Merci.
Merci Chimène pour le message posté du Burkina Faso. On est tous là pour se motiver, puis vraiment pour organiser la continuité des apprentissages des enfants. Et chez vous, les voisins, les voisines, dites-nous comment ça se passe, l'école à la maison. Même si c'est difficile, appelez-nous, racontez-nous, posez-nous des questions. 33 1 84 22 71 71. Et pour ce premier jour d'école à la radio, vous préparez du papier, un bic, des crayons à papier, des crayons de couleur ou bien une ardoise avec des craies, ça marche très très bien aussi.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
L'école à la radio, on démarre aujourd'hui avec du langage, de la lecture, de l'écriture, avec Marie-Christine Aubin, enseignante pendant 30 ans en école primaire. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Emmanuel.
Merci
bonjour
d'être...
Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent.
Merci Marie-Christine, déjà merci d'avoir accepté de faire un petit cours à la radio, comme la plupart des enseignants. C'est un exercice complètement nouveau pour vous.
Absolument, parce que je n'ai jamais enseigné à la radio.
Ouais, 30 ans quand même en école primaire. Vous êtes au téléphone dans votre village, vous n'avez pas de classe devant vous. Dites-nous quel est le programme alors Marie-Christine.
Alors, j'ai pensé à expliquer certains sons. Certains sons sont écrits avec différentes lettres et à l'inverse, une lettre peut représenter plusieurs sons. Donc, c'est très compliqué, mais si on écoute attentivement, on peut très facilement apprendre.
Et quelle lettre vous avez choisi d'étudier aujourd'hui ? Une lettre un peu vicieuse ?
Oui, j'ai choisi d'étudier la lettre S. Pourquoi la lettre S ? Parce que c'est une des plus fréquentes de la langue française, parce qu'elle représente plusieurs sons, deux sons très précisément, mais aussi parce qu'elle a un rôle important dans la grammaire et dans la conjugaison.
Alors, elle représente deux sons, cette lettre S, hein, ça peut être le son S ou le son Z.
Absolument.
Un peu comme une abeille hein, pour le deuxième.
Absolument, c'est le son Z, Z de Zorro, Z du bourdonnement de l'abeille, absolument.
Alors, quelques exemples peut-être ?
Oui, alors on entend le son S en début de mot, comme par exemple dans sardine, dans sable, dans salade, dans saucisson. On entend aussi le son « se » en milieu de mot, entre une voyelle et une consonne. Par exemple, dans « casquette », dans « escargot ». Et on l'entend aussi en fin de mot, dans « sens ». Par exemple, dans « quel sens vas-tu ? » Alors, il y a une difficulté aussi, c'est que lorsqu'on regarde un texte, on peut voir la lettre S écrite à la fin d'un mot, mais on ne l'entend pas. On dit que la lettre est muette.
Voilà, ça ce sont les charmes de la langue française. Hein. On ne prononce pas, on n'entend pas toutes les lettres.
Voilà. Alors par exemple, le mot souris, tu vois écrit la lettre S en début de mot. Il est écrit en fin de mot. Tu entends le son se en début de mot dans souris. Mais à la fin, tu ne l'entends pas, alors qu'il est écrit.
Et puis, on a encore un autre problème, Marie-Christine, c'est quand il y a deux S.
Ah voilà, alors il y a deux S lorsqu'on veut avoir le son « se » entre deux voyelles ou deux groupes de voyelles. Alors par exemple, si je veux avoir le son « se » entre « a »,« e »,« i »,« o »,« u » ou les groupes « on », ouin, ou, oua, en, tous ces sons-là, il faut avoir deux S, parce que sinon, ça fait le son Z. Alors, par exemple, si je dis le mot chaussure, j'ai deux S, parce que j'entends le son O, qui est un son voyelle avant, et le son U, qui est un son voyelle après.
Voilà. Donc, il faut vraiment peut-être laisser le temps aux enfants là, ou aux parents d'écrire, par exemple, le mot chaussure, hein, pour bien qu'on se rende compte comment ces deux S, ils sont coincés entre deux voyelles.
Voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je dicte les lettres de chaussures ?
Eh bien, allez-y.
C-H-A-U-2-S-U-R-E-S.
Voilà, et là, on est sûr, quand il y a deux voyelles, qu'au milieu, il faudra doubler le S. Alors maintenant,
absolument.
Vous nous proposez un petit exercice, Marie-Christine, avec deux colonnes.
Oui, mais je n'ai pas dit. Alors, j'aurais voulu aussi insister qu'on entendait le son Z, justement, quand il y a un seul S entre deux voyelles. Par exemple, si je dis oiseau, j'entends ce sont deux groupes de voyelles, et comme je n'ai qu'un seul S, ça fait le son Z. Si je dis case, c'est la même chose. J'ai le son A, le son E, et au milieu, je n'ai qu'un seul S.
Voilà. Et case, c'est un bon exemple, hein, parce que si on décide de mettre deux S, ça change complètement
ça
le... Et ben voilà, parce qu'on est entre deux voyelles, on met deux S, mais là, c'est casse, hein, il casse. Voilà. Ou bien, sinon,
voilà,
c'est la case avec un seul S. Alors, pour bien s'habituer à différencier ce son S et ce son Z, un petit exercice avec... deux colonnes, c'est ça ? On a la feuille de papier et vous nous demandez de séparer la feuille en deux colonnes.
Absolument. Donc, dans la première colonne, nous allons écrire la lettre S et dans la deuxième, la lettre Z. Et vous faites attention de bien les tracer à l'endroit parce que souvent, les jeunes enfants les tracent à l'envers. Mmh. Alors, pour la lettre S, on met le crayon... et on s'en va vers la gauche, on redescend en tournant.
Ouais, j'espère que là, les enfants sont en train de tracer les lettres. Hein. La lettre S qui ressemble à un serpent, il ne faut pas se tromper de sens. Je suis en train de faire
on
le geste.
On commence à droite, moi-même.
Voilà.
Pour aller vers la gauche.
Et pour la lettre Z, elles se regardent un peu toutes les deux, ces lettres. Hein.
Voilà, alors on commence à gauche, on trace un trait droit, on trace un trait en travers, et on va vers la droite, un trait droit.
Voilà, le Z, ce sont des bâtons, hein, ça ne ressemble pas à un serpent
voilà,
comme le S.
Alors, pas du tout, c'est trois
bâtons.
Une
fois qu'on a tracé ces deux colonnes, une colonne pour le S et une colonne pour le Z, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, on va tracer des bâtons selon ce que l'on dans chacune des cases. Mm-hmm. Si j'entends le son S des mots que je vais dire, on met un bâton dans la case de gauche, là où il y a écrit la lettre S. Et si on entend le son Z, on va mettre un bâton dans cette case-là.
Voilà. Alors ça, c'est vraiment un exercice, hein, faut bien préciser aux parents. C'est pour bien habituer les enfants à reconnaître les sons, pour bien faire la différence, parce qu'il faut habituer ses oreilles, hein, finalement.
Absolument. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose. Les deux lettres que vous venez de tracer, les enfants, vous allez les mettre entre parenthèses, chacune.
Ah oui.
Parce que ces parenthèses, ça représente vos oreilles et le son que vous entendez.
D'accord, d'accord. Les parenthèses, les oreilles et le son. Alors, on démarre avec un premier mot et on fait un bâton dans la colonne du S ou dans la colonne du Z.
Voilà. Alors, 6.
Moi, je le fais en même temps, hein, Marie-Christine. Allez-y.
Cousin. Plusieurs.
Plusieurs.
Dessin.
Dessin.
Sauter.
Sauter.
Oiseau.
Oiseau.
Danser.
Danser.
Savane.
La savane.
Brousse.
La brousse.
Case.
Et la case. Et ben voilà, moi j'ai mes bâtons dans les deux colonnes.
Voilà, j'espère que je ne suis pas allée trop vite.
Je pense que c'est bon, on a eu le temps de faire les bâtons. Alors, donc, résultat des courses ?
Eh bien, on doit avoir 6 bâtons dans la colonne du son S, qui s'écrit avec la lettre S, et 4 bâtons dans la colonne du son Z, qui s'écrit avec la lettre S entre les voyelles.
Eh bien, voilà, moi j'ai tout bon. J'espère que les enfants, vous avez bien pu reconnaître les sons S et les sons Z. pour terminer, moi pas tout à fait pour terminer d'ailleurs pour cette séquence, Marie-Christine, à vous proposer une petite ritournelle pour s'habituer à distinguer ces sons.
Voilà. Alors, c'est Jacqueline Gudin et Simone Perron-Goy qui ont inventé une petite chanson pour bien distinguer tous ces sons. Elles ont inventé plusieurs de ces petites chansons, mais elles sont très sympathiques. Alors, je vais vous en chanter une pour les sons « ce » et « ze ». L'hippopotame dans la rivière plonge, nage et marche au fond. Et les poissons qui le voient faire disent « Quel poison, quel poison !»
Eh ben voilà, Marie-Christine Aubin, enseignante en direct, qui vient nous chanter la ritournelle pour bien mémoriser la différence entre les poissons et le poison. Merci beaucoup Marie-Christine et bravo à vous. On enchaîne avec une dictée de six mots.
Voilà, donc pour bien fixer dans votre mémoire la différence entre le son ce et le son ze, je propose une très courte dictée que je vais vous dire. La femme casse la cruche grise. Donc, on entend le son ce dans le verbe casse. Et le son « ze » dans l'adjectif de couleur « grise ».
Voilà, donc normalement, si on a bien réussi l'exercice des bâtons dans les colonnes, eh bien, on sait comment on doit écrire. Alors juste quand même, c'est pas de chance, parce que dans cette dictée, vous commencez par une vraie difficulté de la langue française, c'est que la femme, ça s'écrit pas avec... On entend un « a » et ça s'écrit pas avec un « a ».
Oui, alors ça, il y a très peu de mots, il y a quelques mots dans la langue française où le son A est écrit avec la lettre E. Bon. Alors, comme par hasard, aujourd'hui, c'est la femme. Alors, la femme s'écrit, bon, L-A, donc qui est
l'article
défini, femme, F-E, deuxième, E. Donc là, il y a deux M aussi. Attention, hein.
Et alors, le corriger, donc, pour casse, pour que les enfants sachent.
C-A-2-S-E.
Là.
Plus loin, là. Donc, c'est le déterminant, là, l'article défini. Cruche. C-R-U-C-H-E. Et plus loin, grise, G-R-I-S-E. Alors, je vais peut-être expliquer ce qu'est une cruche. C'est un pot en terre, généralement. Il y a une anse, et en face de l'anse, le potier modèle un petit bec pour pouvoir verser avec précision de l'eau dans un autre, dans une marmite, dans un verre, dans un autre récipient.
Alors, cette petite dictée de six mots, Marie-Christine Aubin, vous proposez aux parents de... On peut la modifier, c'est-à-dire que c'est tout simple en fait, six mots, mais il faut commencer comme ça avec les enfants, des dictées très très courtes, et ensuite on peut la modifier une fois que les enfants ont mémorisé l'exercice, ont mémorisé l'orthographe de chaque mot.
Voilà, alors l'enfant doit travailler personnellement en recopiant plusieurs fois les mots, et puis c'est bien quand l'adulte leur dicte. Et après, on peut jouer, parce que ça peut être un jeu vraiment très agréable, une dictée. Je peux remplacer le mot « femme » par « la fille ». Je peux remplacer par « le garçon ». Je peux remplacer le verbe « casse » par « porte ». Par exemple, « la fille porte ».
C'est ça.
Mais le garçon porte.
L'idée, c'est de garder toujours des mots qui ont déjà été vus avec les enfants. Comme ça, bon, bah, on part sur une base déjà rassurante, hein.
Ben voilà, si on réussit, si on a bien appris les premiers mots, moi ce que je faisais dans mes classes, je changeais juste un seul mot. Donc sur les six mots, si je change un, il y a cinq mots de réussi. Donc ça c'est sympathique parce que l'enfant il n'est jamais en échec. Et il est facile d'apprendre un seul mot en plus ou deux mots en plus que d'apprendre toute une nouvelle phrase.
Ouais. Un mot par jour, c'est un bon conseil ça?
C'est un bon conseil. Alors, ça paraît très lent au départ, mais à force de faire cet exercice, les enfants acquièrent de plus en plus de mots, comprennent de mieux en mieux les mots, comment sont écrits les mots, et ils acquièrent de la vitesse.
Marie-Christine, on va terminer sur le son S avec une conjugaison, parce que comme ça, vraiment, ça sera assez complet, même si faudra revenir sur le son S, parce qu'on n'a pas encore découvert le C, on n'a pas découvert le C, c'est dit, mais bon. Une petite conjugaison?
Alors, je vais proposer le verbe casser au présent de l'indicatif.
Ouais.
Alors, vous savez que dans les mots, il y a la partie qu'on appelle la racine, le radical.
Oui.
Alors, je propose aux enfants d'écrire avec un stylo bic noir, parce que c'est la partie du mot qui ne va pas changer.
Oui.
Et avec un stylo bic vert, les terminaisons des conjugaisons.
Oui, mais alors là, pour casser, alors c'est quoi là, le radical? Qu'est-ce qu'on écrit au stylo bic et le reste au crayon de couleur?
Alors, on écrit c'est A, 2S, au stylo bic noir, ou au crayon noir, peu importe.
Donc, C-A-2-S au stylo bille.
Voilà, c'est la racine, c'est ce qu'on appelle le radical. C'est la partie qui ne va pas bouger. Et avec une couleur, enfin de préférence le bleu ou le vert, comme les vagues de la mer qui changent tout le temps, on va écrire la terminaison.
On va démarrer par la première personne du singulier. Je casse.
Alors, C-A-2-S et on rajoute E.
Voilà, le E, on le met en bleu ou en vert dans une autre couleur avec le crayon de couleur. On peut faire ça aussi sur l'ardoise avec des craies de couleur. Pour la deuxième personne du singulier, tu casses. Et
alors,
ensuite, on rajoute la terminaison en couleur.
E-S.
Il casse, il ou elle.
Il, elle, on casse, E.
Nous donc cassons.
O-N-S.
Vous cassez.
E-Z.
Et enfin, la troisième personne du pluriel. Il, elle, casse. Donc toujours le radical, c'est A-2-S, qui ne change pas, qui est toujours écrit au stylo bille. Et ensuite, la terminaison
E-N-T.
En couleur. Les voisins, les voisines, j'espère que vous avez eu le temps de noter tous ces exercices. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions et surtout à nous envoyer vos réactions. Si ces exercices vous sont utiles, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Marie-Christine Aubin, je pense qu'il faudra revenir sur ce fameux son S, parce qu'on n'a pas encore vu le C, on n'a pas encore vu le CCD. Peut-être quelques derniers conseils là, pour les parents, pour refaire des exercices, parce que là, on a donné des pistes, hein, bien évidemment. Si les enfants nous ont écoutés, j'espère qu'ils ont eu le temps de travailler. Et puis sinon, bien sûr, on peut réécouter l'émission. Quelques derniers conseils, Marie-Christine?
Oui, vous pouvez refaire cet exercice de distinction entre le son « ce » et le son « ze ». Représenté par la lettre S, ça vous pouvez chercher des mots dans votre tête, des mots simples, des mots courants, il y en a plein, parce que c'est une des lettres les plus fréquentes de la langue française, donc c'est un son qui est fréquent, donc ça vous pouvez refaire un petit travail comme celui-là. Vous pouvez peut-être retrouver cette petite chanson « L'hippopotame dans la rivière, nage et marche au fond ».
Ah oui, ça je l'aime bien celle-là. « L'hippopotame dans la rivière, plonge, nage et marche au fond. Et les poissons qui le voient faire disent « Quel poison, quel poison !»
Donc vous voyez le mot « poisson » et « poison », ils sont écrits avec les mêmes lettres. Il suffit d'avoir deux S pour avoir le son « ce » et le poisson qui nage. Et on garde qu'un seul S et nous avons du poison. Vous savez ce que c'est que le poison? C'est un produit qui tue, qu'il ne faut surtout pas utiliser, qu'il ne faut surtout pas avaler, parce que ça tue. Mais vous savez pourquoi on dit quel poison ? Ça, c'est une expression bien française. Quand il y a quelqu'un qui vous embête, c'est un vrai poison. Ouais.
Et alors, vous savez quand même que ce qui est drôle, hein, Marie-Christine, c'est que bon, bah, moi, je suis allée à l'école primaire il y a très très longtemps. Hugo Violas, qui est à la technique, qui réalise l'émission là, en direct, c'est la même chose. Et je lui ai dit, bah, tu savais, toi, Hugo, que quand il y avait deux voyelles au milieu, si on mettait deux S ou S, et bah, c'est ce qui changeait le son. Et que si on veut entendre le son S entre deux voyelles, on est obligé de doubler le S. On ne se souvenait absolument pas de cette règle, Marie-Christine. Je ne sais pas qui nous a enseigné à l'école, mais en tout cas, ce n'est pas gravé dans le disque dur. Certes, on sait quand même écrire les mots, mais on ne sait pas pourquoi.
Voilà, il y a plein de mystères comme ça sur de la langue française, qui est une langue vraiment difficile à écrire.
Merci beaucoup, Marie-Christine Aubin. Et bien sûr, les voisins, les voisines, vous envoyez vos questions, vous envoyez vos réactions si vous avez fait cette séquence avec des enfants. Dites-nous aussi si ça va trop vite, hein, peut-être. 33 1 84 22 71 71. Dites aux plus jeunes qu'on aimerait bien avoir leur message. On les diffuse dans les prochaines émissions. Et Marie-Christine Aubin, on vous retrouve mercredi. Vous êtes prête pour une autre séance ?
Voilà, pour continuer à découvrir l'écriture du son se.
Voilà, pour une
autre.
Il y a
12 manières en tout.
Eh ben dites donc, on n'est pas rendu
oui,
là.
Oui, c'est très compliqué, c'est ce que je disais. Bon, bah, la langue française est très compliquée.
Il faut presque souhaiter que le Covid-19 continue. Non, c'est une plaisanterie vraiment de mauvais goût. Alors, pour une autre école à la radio, donc on vous retrouve, Marie-Christine, pour une autre séquence langage, vraiment un des savoirs fondamentaux. On vous retrouve mercredi. Et quant à nous, demain, on fera du calcul avec des problèmes avec Gérard, qui sera le maître et qui sera à votre place. Et merci beaucoup. Très, très bonne journée au village, Marie-Christine. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Merci.
C'est ce que je fais. Je vous souhaite une excellente journée à tous.
Très bonne journée.
Nous avons un magnifique soleil, mais des rafales de vent. Les cerisiers sont en fleurs devant ma fenêtre. C'est magnifique.
Ah, formidable. Vous nous faites rêver, Marie-Christine Aubin. Merci encore à vous pour tout le mal que vous vous donnez, pour les enfants qui nous écoutent. Et dans quelques instants, une petite récréation pour rêver, pour apprendre aussi de nouveaux mots. Une histoire racontée aux enfants. Allez, allez vite les chercher s'ils ne sont pas encore à côté de vous. Ça sera juste après Vodou Game. La vie, c'est bon.
La vie, c'est bon, 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 mais pas trop quand même.
écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. L'école à la radio, c'est la nouvelle formule de l'émission chez 7 milliards de voisins. Après une séquence sur le langage et l'écriture, une histoire racontée par Héloïse Auria, comédienne. Un petit garçon au village, c'est une histoire écrite par un auteur de jeunesse ivoirien, Dozilek Polo, publié dans la collection Planète J'aime lire, Bayard Afrique.
Le fait que ça, je vais inventer une histoire.
Il était une fois
un petit garçon au village. Un roman écrit par Dozilek Polo. Ce qu'Ange Marie préfère après l'école, c'est de passer du temps avec son papa. Ensemble, ils jouent très souvent au football. Ce matin, Ange Marie l'aide à charger les valises dans la nouvelle voiture. Tu mets les plus grosses d'abord dans le fond, et ensuite les plus petites. D'accord ? Lui dit papa. C'est compris, mais je sais déjà comment faire. « Ok, mon grand !» répond papa en riant. Au début, Ange-Marie essaye avec les plus grosses, mais elles sont lourdes. Alors il prend les plus petites. Ange-Marie les transbahute une à une, pendant que papa s'occupe des grosses. Une fois la dernière valise rangée, Ange-Marie s'écrie. « C'est fini ! En route pour le village ! On va pouvoir participer au tournoi de football ! Wow !» Impatient, il passe la tête dans les escaliers et s'écrie « Maman, tu descends !»« Je récupère ta brosse à dents et j'arrive !» lance-t-elle. Ange-Marie retourne à la voiture, met sa ceinture, sort un livre et commence à lire. Enfin, maman ouvre la portière et s'installe. « C'est parti !» lance papa. « On y va !» Ange-Marie dépose son livre pour observer le paysage qui défile sous ses yeux. « Papa, on arrive quand ?» fait papa embêté. Bientôt. Oui, mais bientôt c'est quand ? Insiste-t-il. Dans quelques heures seulement, promet maman. Le petit garçon s'impatiente. C'est la première fois qu'il part au village. Pour s'occuper, il replonge dans son livre, puis cite les pays et leurs capitales. La route devient chaotique avec les nids de poules. Les heures passent lentement. Enfin, la voiture s'arrête. Ange-Marie lève la tête et lit la pancarte à voix haute. « Et Bourgnoa !» Papa se retourne, le regarde l'air ému et dit « Nous sommes arrivés. Ici, c'est chez moi. » À l'entrée du village, des femmes vendent des bananes braisées et des arachides. Ange-Marie, qui a faim, crie « Maman ! Maman, je veux des bananes !»« S'il te plaît, Ange-Marie, il faut toujours dire « s'il te plaît ».
« Oui, maman, je sais, » dit-il en murmurant.
Papa se gare sur le bas-côté et s'exclame. « J'en veux aussi !» Ange-Marie et sa maman descendent de la voiture, salie par la terre rouge. Ils s'avancent vers l'étal le plus fourni. Maman choisit 3 bananes et 1 sachet d'arachide, puis remet l'argent à la vendeuse. Le petit garçon et sa maman remontent dans la voiture.
« Ça sent bon !»
fait papa en se frottant les mains. Après ce bon repas dévoré avec appétit, papa redémarre la voiture et se dirige vers une grande bâtisse aux murs jaunes et marrons. « C'est ici ?» demande Ange-Marie.
« Oui, mon grand, » dit papa en klaxonnant.
Tanti Bénédicte, la sœur de papa, ouvre le grand portail. Ange-Marie descend de la voiture et court se jeter dans ses bras.
« Oh, mon neveu chéri, tu m'as manqué !»
« Tu m'as manqué aussi, Tanti !»
répond Ange-Marie. Elle le serre fort dans ses bras en lui faisant d'énormes bisous.
« Arrête, Tanti, tu me serres !»
dit Ange-Marie en riant.
« Oh, ok. Allez, file. Ton cousin Marco t'attend pour un match de foot. »
Ange-Marie, tout heureux, le rejoint dans la cour en criant.
« Hé, cousin !»
Les deux garçons entament la partie. Mais Ange-Marie s'énerve vite, car il est moins précis que son cousin. En colère,
Il frappe fort dans le ballon, qui passe par-dessus la clôture et les voitures, avant de terminer sa course dans une bassine d'eau près du puits. Les garçons observent la scène, tétanisés. Par leur faute, une femme vient d'être éclaboussée. Elle hurle de fureur.
« Sacrilège ! Qui a fait ça ? L'eau est sacrée dans ce village !»
Apeurés, les garçons courent vers la maison. Ange-Marie bredouille.
« Tanti, j'ai mouillé une dame qui est fâchée. Elle dit que l'eau est sacrée. »«
Oh mon Dieu !» s'écrie Tanti.
« Je ne savais pas !»
murmure Ange-Marie. Tanti console les enfants et leur promet de leur raconter le soir venu l'histoire de l'eau du village. La nuit tombe sur Herbourgnois. Assis en cercle autour du feu, Ange-Marie, ses parents, Marco et d'autres enfants écoutent Tanti Bénédicte. Il y a longtemps, très longtemps, la sécheresse frappait le village. Les réserves d'eau diminuaient. Un jour, un père inquiet confia une mission à ses deux fils, trouver une source d'eau. Les deux frères partirent à la recherche de l'eau. Ils marchèrent pendant des jours et des nuits, jusqu'au moment où ils rencontrèrent un vieil homme. « Je sais ce que vous cherchez, » leur dit-il. « Si vous trouvez la réponse à mon énigme, je vais vous aider. » Le plus jeune répondit « Nous sommes prêts. » Le vieil homme dit sur un ton grave « On ne peut ni me voir, ni m'entendre, ni me toucher, ni me sentir, ni me goûter. Si l'on me prononce, je ne suis plus. Qui suis-je ?» Les jeunes hommes se mirent à réfléchir, encore et encore. Puis, au bout de 5 longues minutes, le plus jeune répondit « Le silence !» Le vieil homme le félicita, puis leur indiqua où trouver la source de l'eau. « Il suffit de creuser un puits au milieu de votre village, et vous ne manquerez plus jamais d'eau. » Puis, il disparut dans la forêt. Depuis ce jour, l'eau est sacrée au village. Le visage triste, Ange-Marie reconnaît.
« J'ai fait une grosse bêtise !» « Je ne savais pas. »«
Ce n'est pas grave, mon ange, » lui dit maman en le prenant dans ses bras.
« Tu peux encore te rattraper, » ajoute papa.
Le lendemain, Ange-Marie se lève très tôt, se lave et file près du puits. Il a une idée géniale. Lorsqu'il aperçoit la femme trempée la veille, il s'approche timidement.
« Bonjour, Tanti. Je suis désolée pour hier. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper ?»
Elle l'observe et dit « C'est bien, mon fils. Tu es venu t'excuser. Rentre chez toi maintenant. Le tournoi va bientôt commencer. » Mais Ange-Marie insiste. Il veut porter une bassine sur sa tête pour l'aider. Elle lui donne alors la plus petite en disant « Attention à ne pas renverser une goutte d'eau. » Ange-Marie la regarde intimidée.
« C'est compris, Tanti. »
Ils éclatent de rire et reprennent leur chemin. Ce séjour au village commence bien, finalement.
Un petit garçon au village, ça va, ça vous a plu un peu, beaucoup? Répondez-nous, envoyez vos réactions au 33 1 84 22 71 71. On est en direct, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. À la mise en onde de cette histoire, Romain Dubrac, la voix Héloïse Auria. Et pour retrouver cette histoire, un petit garçon au village, écrite par Dozilek Polo, un auteur de jeunesse ivoirien, elle a été publiée dans la collection Planète J'aime lire, Bayard Afrique. Il y a même un lien internet pour accéder gratuitement à l'histoire, www.planetmag.com Dozilek Polo. Et le lien, il est même inscrit sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour retrouver d'autres infos, d'autres références pour l'émission. Et puis, vous pouvez aussi réécouter l'histoire avec la super voix d'Héloïse Auria. C'est tout simple, hein, vous recherchez le podcast de l'émission sur les plateformes de téléchargement ou bien vous allez sur l'appli RFI Pure Radio. Et là, vous avez l'émission du jour, les émissions des jours précédents. Et vous pouvez faire une avance rapide pour arriver directement sur l'histoire ou bien au contraire, réécouter l'école à la radio avec l'enseignante. Voilà, soit vous avez la récré, soit vous avez le travail. Allez, je vous redonne notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Uniquement sur WhatsApp, vous postez vos messages, audio, écrit et bien évidemment, on veut avoir de vos nouvelles pour la suite des émissions cette semaine. Dans quelques instants, on donne la parole à notre chroniqueuse Joëlle Alarcon, psychopédagogue.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Milliards de voisins, l'école à la radio. On est en direct avec notre chroniqueuse Joëlle Alarcon. Bonjour Joëlle.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychopédagogue et vous nous proposez aujourd'hui, puisqu'on l'a annoncé, hein, chaque jour il y aura beaucoup de conseils pratiques dans cette émission désormais, 10 conseils pour faire travailler efficacement ses enfants avec un planning. C'est vraiment le sujet de la chronique, le planning.
Tout à fait. Pour apprendre efficacement à la maison, il est important de s'organiser. Donc effectivement, je vais vous parler des 10 règles d'or du planning. La première règle d'or, c'est de se mettre d'accord en famille sur le fait que ce planning, pour la première semaine, est un planning provisoire, comme une forme de test. Mmh. On s'autorise à la fin de la semaine à y apporter les modifications que l'on jugera nécessaires.
Ouais, donc c'est un planning démocratique, un peu.
Exactement. Et dans la même veine, l'idée, c'est qu'il soit co-construit en famille, qu'il ne soit pas imposé par les parents. Ça vous évitera, à vous, chers parents, beaucoup de tensions à la maison.
Ouais. Alors, ce planning, il commence quel jour, il termine quel jour?
Alors, l'idée, c'est qu'il commence le lundi et qu'il se termine le vendredi. Et on garde le mercredi, parce que comme on va un petit peu moins travailler quand même qu'à l'école, l'idée, c'est de travailler également le mercredi.
Donc, on travaille bien les 5 jours.
Exactement. Mmh. Et on y positionne donc à l'horizon, enfin à la verticale le mardi et l'après-midi, à l'horizontale du lundi au vendredi et à la verticale le matin et l'après-midi.
Ouais.
Et on y positionne immédiatement tous les événements qui sont déjà prévus, comme les repas, les courses, la visite à mamie, la séance de sport à la maison,
ouais.
pour que le travail, les apprentissages puissent organisé autour de ça.
La journée, elle commence à quelle heure dans l'idéal pour vous qui êtes psychopédagogue, Joëlle Alarcon?
Alors, dans l'idéal, pour quand même profiter de cette période pour reprendre un rythme normal, un rythme physiologique qui nous permette de dormir suffisamment, je conseille de se réveiller maximum à 9h pour un démarrage des apprentissages à 10h.
10h maximum, on est au travail avec ses enfants.
Exactement.
En tout cas, les enfants sont au travail. Hein.
Voilà, en autonomie ou pas, ça va dépendre un petit peu des familles, des degrés d'autonomie et des âges. Mais effectivement, à 10h, on se met au travail jusqu'au repas de midi. Mmh. Alors, on commence par établir une petite liste des matières à travailler sur un brouillon. On liste, voilà, toutes les matières, mathématiques, sciences humaines, physique, chimie, etc. Et on y applique une couleur par matière, au feutre, en surlignant ou en soulignant.
Mmh.
Et en reportant cette couleur et la matière dans le planning, on va pouvoir, d'un seul coup d'œil, quand on a fini son planning, voir qu'est-ce qu'on travaille peut-être un peu trop ou qu'est-ce qu'on ne travaille pas assez, parce que le code couleur va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble.
Oui, très visuel donc, hein, ce planning, avec une couleur pour chaque matière. Est-ce que vous préconisez un temps de travail toujours le même ou en fonction des matières? Comment il faut voir les choses?
Alors oui, le temps idéal de travail est de 30 minutes, on va dire, pour les écoliers, les collégiens. Mmh. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes pour un lycéen.
Ah oui, c'est pas si long que ça, 30-40 minutes finalement.
Non, tout à fait. Les neurosciences nous montrent bien aujourd'hui qu'espacer les apprentissages en faisant régulièrement 5 minutes de pause est une manière d'apprendre beaucoup plus efficace. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'expériences avec des groupes tests. Et lorsque l'on travaille, par exemple, 4 demi-heures entrecoupées de 5 minutes de pause, ou si l'on travaille 2 heures d'affilée, En faisant passer aux deux groupes la même évaluation, ceux qui ont travaillé 4 fois une demi-heure ont de bien meilleurs résultats.
Donc ça veut dire que là, les parents qui nous écoutent, qui s'énervent parfois avec leurs enfants à refaire un exercice qu'ils n'ont toujours pas compris, eh ben ça marche pas comme ça. Au bout d'une demi-heure, 40 minutes maximum, on fait une pause de 5 minutes. C'est bien ça. Hein. Quoi
voilà,
qu'il arrive, même si on n'a pas compris l'exercice, on y reviendra après, on sera peut-être un peu moins énervé finalement.
Oh oui, et j'en parlais lors d'une chronique, les émotions jouent beaucoup dans les apprentissages. Et alors, s'il y a une crispation autour de quelque chose qui n'est pas compris, il vaut mieux effectivement passer à autre chose.
Ah oui, on y reviendra ensuite. Alors, par quoi on commence la journée? On commence par le difficile pour se débarrasser?
Alors, moi, je conseille à tous les gens que j'accompagne, toujours commencer et terminer la journée par une matière dans laquelle on se sent à l'aise.
Ah bon, j'ai tout faux. Alors, on commence par un truc simple dans lequel on est bien. D'accord.
Et oui, et pourquoi? Pour se mettre en confiance. Ah. C'est-à-dire que si dès le matin, dès le premier exercice, on se retrouve dans une situation d'échec, on peut vraiment se mettre dans une mauvaise posture intellectuelle pour toute la journée et émotionnelle aussi. Alors que si l'on commence par quelque chose que l'on va réussir, on envoie comme message à notre cerveau et à notre cœur aussi que c'est bon, ça marche, on a confiance.
Ouais.
Donc, et de la même façon, on termine sur une réussite.
Ça veut dire qu'on peut commencer par un exercice de dessin, vraiment de quelque chose qui n'est pas une prise de tête. Et à la fin de la journée, c'est la même chose. Donc on va pas commencer par les maths, sauf si son enfant adore les maths, évidemment. Dans ces cas-là, on commencera par les maths.
Exactement, en tout cas par un exercice qu'on sait qu'il va réussir. Vraiment dans une idée de regard, tu réussis, on te met en confiance et on part sur de bons rails.
Et alors, les matières où on galère un peu, on les met où dans la journée?
Juste après. C'est-à-dire, alors pas après la digestion, parce qu'au moment de la digestion, après le repas de midi, on est un petit peu moins efficace. Donc vraiment, après cet exercice qui nous a mis à l'aise, on attaque les matières un peu plus difficiles, les matières dans lesquelles on se sent moins à l'aise, parce que c'est le moment où le cerveau est au top.
C'est ça. Et si ce sont les maths, moi je dis ça, mais j'ai rien dit, si par hasard ce sont les maths qui posent un peu problème, toujours des séquences de 30 à 40 minutes, c'est bien ça, Joëlle Alarcon?
Oui, tout à fait, c'est important d'espacer les apprentissages, vraiment. Et si les jeunes ont un smartphone à la maison, l'idée, c'est que pendant ces 30 minutes, le smartphone n'est pas dans la même pièce pour éviter les distractions et pour éviter les coupures ascensionnelles.
Voilà. Il reste encore deux conseils à donner, Joël, je crois, un ou deux?
Tout à fait, deux. Alors, le conseil que je voulais vous donner aussi, c'est tous les jours de faire un petit rappel de ce qui a été fait la veille, mais pas sous forme de révision, sous forme de « je me souviens de ». Donc, ça peut être en se lavant les dents ou en prenant le petit déjeuner. Quelques retenues de la journée de travail d'hier. Mmh. Ça, c'est important pour la mémoire. Et mon dernier conseil, c'est de toujours privilégier les pédagogies actives, les pédagogies où on est en action, donc les jeux, les exercices, les QCM, les devinettes, les mises en situation, jouer au prof dans sa chambre. Tout parce qu'en fait, ce qui fait qu'on apprend, c'est parce que le cerveau se questionne. Donc, très important d'être actif.
Voilà, alors donc 10 conseils pour bien organiser son planning, un planning hebdomadaire qui va être provisoire au début et qu'on va ensuite affiner du lundi au vendredi, après-midi, y compris le mercredi, placer les éléments qui sont déjà bloqués, l'heure de réveil, on démarre au plus tard à 10h, les matières faciles au début et ensuite on enchaîne avec le dur, et puis des séquences de 30 à 40 minutes maxi. Et effectivement, on se souvient de ce qu'on a vu la veille. Merci beaucoup Joëlle Alarcon pour tous ces conseils qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre page RFI.fr, sur la page des 7 milliards de voisins. Merci à tous nos intervenants, en particulier aussi les enseignants qui préparent l'école à la radio chaque jour. Là, il y a un prof de maths pour demain qui est en train de réviser son cours. Et bien sûr, les voisins, on attend vos réactions pour mieux vous informer et vous être davantage utile. Contactez-nous 33 1 84 22 71 71. Demain, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Il y aura, comme je vous le disais, du calcul, des problèmes de maths, une nouvelle histoire, un conte mandingue et la chronique de Didier Acouetté, faire survivre le business au temps du Covid-19. À demain, les voisins et les voisines.
Durant toute l'année, il va